Bonjour à tous. Vous m'entendez? D'accord. Surtout les rangs du fond, hein? Parce que les chaises devant, elles entendent très très bien, hein? Alors, je vais vous demander, ceux du fond, à venir devant. Oui, même ceux qui font semblant de ne pas entendre. J'en vois un là-bas. Allez, si vous voulez bien regarnir les rangs de devant, qu'on se sente moins seul avec Eric, Honoré. Voilà. On n'a pas l'habitude d'être si peu nombreux, finalement, dans cette salle, hein, habituellement. Bien, et puis maintenant que quelques-uns ont bougé un peu, je vais demander deux volontaires pour faire une petite expérience. Ça peut être des enfants. S'il y a des gens, deux, il m'en faut deux. Il y aura une consigne, j'ai un grand enfant là qui veut bien venir, il y aura une consigne, et puis on va les regarder faire. Alors, il me faut un deuxième, là. Justin. Bon, alors, je vous présente Eric, je vous présente Justin. Alors maintenant, je vais donner comme consigne que Eric doit marcher avec Justin, et pas l'inverse. Et vous faites ce que vous voulez. Bon, t'as l'habitude de ce genre d'exercice, Justin. Ça, c'est... Est-ce qu'on voit Eric marcher avec Justin, là? Ouais. Est-ce qu'il y a une différence avec Justin qui marche avec Eric?
Eric est plus concentré.
On a l'air, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on voit encore? Que Justin regarde derrière lui, si l'autre le suit. Ah, je crois pas. Je crois pas. Il jette un œil comme ça. Est-ce que Eric passe devant Justin?
Non.
Est-ce que Eric va où il veut?
Non.
Ah là. Bon. Moi, je crois qu'on a fait une bonne petite expérience là. Vous n'en voyez pas le résultat, ni l'intérêt. On va voir. Vous allez voir. Merci de vous asseoir et merci beaucoup pour votre coopération. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Ça va? Vas-y, bois un petit coup. Un peu dur. Alors maintenant, on va lire la Bible et je vous demande une chose, cette fois. Une fois n'est pas coutume. Vous n'ouvrez pas vos Bibles si vous en avez. Vous ne touchez pas vos smartphones, surtout, si vous avez les Bibles dessus. Vous écoutez seulement. On lit la Bible. C'est au tout début de la Bible, dans le premier livre de la Bible. Livre de la Genèse, chapitre 5, le verset 3. Je commence. À l'âge de 130 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Adam vécut encore 800 ans, il eut d'autres fils et des filles. Et après avoir vécu en tout 930 ans, il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth, c'est le fils d'Adam. Hein? Seth eut un fils, Enos, 105 ans. Après la naissance d'Enos, Seth vécut encore 807 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 919 ans, il mourut. 912, pardon. À l'âge de 90 ans, Enos, donc le fils du précédent, eut un fils, Kénan. Après la naissance de Kénan, Enos vécut encore 815 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 905 ans, il mourut. Il a déjà capté quelque chose. À l'âge de 70 ans, Kénan eut un fils, Malaléel. Après la naissance de Malaléel, Kénan vécut encore 840 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 910 ans, il mourut. Après la naissance de Malaléel, Kénan vécut encore 840 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 910 ans, il mourut. À l'âge de 65 ans, Malaléel eut un fils, Yéred. Après la naissance de Yéred, Malaléel vécut encore 830 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 895 ans, il mourut. À l'âge de 162 ans, Yéred eut un fils, Hénoch. Après la naissance d'Hénoch, Yéred vécut encore 800 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 962 ans, il mourut. À l'âge de 65 ans, Hénoch eut un fils, Mathusalem. Tiens, on a entendu parler de lui. Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Hénoch marcha avec Dieu 300 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Sa vie dura 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il disparut. Car Dieu l'enleva auprès de lui. À l'âge de 187 ans, Mathusalem eut un fils, Lémec. Après la naissance de Lémec, Mathusalem vécut encore 782 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Et après avoir vécu en tout 969 ans, c'est lui le Cador. 969 ans, il mourut. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils. Il l'appela Noé. Il disait en effet, celui-ci nous consolera de nos travaux, parce que Noé veut dire consolation. Il nous consolera de nos travaux, de la peine que nous devons prendre parce que le Seigneur a maudit le sol. Souvenez-vous à Adam. Après la naissance de Noé, Lémec vécut encore 595 ans. Il eut d'autres fils et des filles, et après avoir vécu en tout 777 ans, il mourut. Noé avait atteint l'âge de 500 ans quand il eut trois fils, Sem, Cam et Japhet. Et on lit plus loin, au chapitre 9, « Après la grande inondation, le déluge, Noé vécut encore 350 ans. Il mourut à l'âge de 950 ans. » Et on arrête là la lecture. Je l'ai osé, je vous ai lu une généalogie. Voilà. Habituellement, quand on lit la Bible, qu'on voit une généalogie qui commence avec un tel, fils d'un tel, machin, etc., on dit, bon, où est-ce que ça s'arrête? Je vais sauter là-bas en bas et ça ira mieux après. Bon. Celle-ci a un intérêt quand même. On a repéré différentes choses. Vous avez vu une régularité. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants ont vu ça. Les adultes, peut-être pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui se répètent. Qu'est-ce qui se répète constamment? Il mourut. Il y a autre chose qui se répète aussi. Il eut des fils et des filles. Il a vécu tant d'années. Et au total, il a vécu tant d'années. Et il mourut. Tous, ils sont 10, hein. Adam, Seth, Enos, Kenan, Malaléel, Yéred, Hénoch, Mathusalem, Lémec et Noé, 10. Et il y en a un au milieu de tout ça. Le septième. Il a vécu moins longtemps. Hénoch, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il est dit sur Hénoch? Il a disparu. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un a disparu, ben on le cherche, non? Premièrement, il y a des gens qui disparaissent, on les cherche. Mais c'est aussi une manière de parler des gens qui meurent. Quand quelqu'un meurt ou quelqu'un de célèbre, on dit à la radio, à la télé, on lit dans les journaux, ben un tel a disparu. Voilà. Et on sait qu'il est mort, en fait. Ce n'était pas une manière de parler à l'époque. À l'époque, quelqu'un mourait, ben il mourait. Et c'était pas facile. Et puis là, il y en a un qui disparaît. On ne l'a pas trouvé. D'autres traductions de la Bible disent comme ça. On ne le trouva plus. On ne l'a pas trouvé. Parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. C'était évident pour tout le monde. Cet Hénoch qui marcha avec Dieu. Contraste. Pourquoi a-t-il marché avec Dieu? Pourquoi ça paraît si bizarre au milieu de cette généalogie où tout est régulier? À part les nombres d'années, tout le reste c'est identique. Hein, c'est écrit d'une manière identique. Et puis si on regarde le texte sur Hénoch, à la fois c'est différent, et puis à la fois c'est très simple. C'est dit très simplement. Après la naissance de Mathusalem, donc son fils, Hénoch marcha avec Dieu 300 ans. Ah bon ? On aurait lu Enoch cueillit ses cerises le matin, et puis il cultivait ses haricots et ses patates. On aurait dit de la même manière. Et là, Enoch marcha avec Dieu, c'est le seul. Et c'est dit comme ça, tout benoîtement. Et puis un peu après, quelques mots, Enoch marcha avec Dieu. À nouveau, on répète. Puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. Et puis on passe au suivant, Mathusalem. C'est très simple et à la fois, on sent qu'il y a une différence notable. Il y a une différence notable et c'est le seul pour lequel il est question de Dieu. Tous les autres ont une vie, on ne sait pas s'il y a Dieu dans leur vie, en tout cas, il n'en est pas question. Et lui seul, il est question de Dieu. Je vous invite à ce qu'on se pose deux questions toutes simples, et très vite, on ira voir les réponses possibles. Pourquoi marcher avec Dieu ? Et puis, comment marcher avec Dieu ? D'abord, pourquoi ? Pourquoi Enoch a marché avec Dieu ? Alors, il se trouve que 5000 ans après cette histoire-là, à peu près, 5000 ans, à quelque chose près, Dieu parle à nouveau d'Enoch dans sa Bible. Dans le Nouveau Testament, cette fois, donc c'est la deuxième partie de la Bible, dans la lettre aux Hébreux, nous trouvons ce texte. Lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 5. « Par la foi », vous savez, c'est cette longue litanie de « par la foi, Moïse, par la foi, etc. » Et « par la foi, Enoch fut emmené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne ne put le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. » L'Écriture déclare, ça veut dire la Bible, la parole de Dieu, déclare qu'avant d'avoir été enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Clairement, il est à nouveau dit là que Enoch a été emmené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Et cette fois, le clou est bien enfoncé. C'est sûr. Il n'est pas mort dans un coin et on ne l'a pas retrouvé. Non, 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 pas du tout. C'est Dieu qui l'a emmené. Et on apprend quelque chose de plus. C'est que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Voilà donc une partie, certainement, de la réponse. Pourquoi marcher avec Dieu ? Parce que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Ça n'est pas naturel dans mon cœur, finalement, de chercher Dieu, de marcher avec lui. Ce n'est pas au cœur de mes préoccupations. Je dois bien le dire. J'ai plutôt envie de faire ce qui me plaît, de chercher un travail qui me plaît, de faire des choses qui me font plaisir. C'est plutôt ça, mon penchant naturel. Et puis, mes projets, qui ne sont pas forcément des mauvais projets, à un moment donné, je vais prier Dieu. Et peut-être que j'ai plutôt tendance à faire entrer Dieu dans mes projets plutôt que de construire mes projets avec Dieu. C'est peut-être ça un peu le problème. Je commence par m'organiser et puis je prie après. Qui marche avec qui à ce moment-là ? On a vu tout à l'heure. Il y en a un qui faisait attention à ce où allait l'autre. Et quand, vous ne l'avez pas peut-être tous remarqué, mais arrivé au fond, Justin a tourné de ce côté-là, et Eric a suivi. Pourquoi est-ce que Justin allait de ce côté-là ? Eric ne sait pas. Mais Eric a suivi, parce qu'il marche avec Justin. Et nous, quand on marche avec Dieu, c'est un peu pareil. On ne sait pas souvent où Dieu va nous mener, mais la confiance qu'on peut avoir en lui, en marchant avec lui, c'est d'y aller. Est-ce que, alors la question peut être posée à l'envers, est-ce que je veux que Dieu marche avec moi ? Ça peut être déjà une bonne réflexion. Est-ce que Dieu marche avec moi ? Parfois, on prie dans ce sens-là. Je ne suis pas sûr que la prière soit vraiment juste. Ce n'est pas dans ce sens-là que ça marche. Évidemment, je vais pas le dire comme ça. Je ne vais pas demander à Dieu de se plier à mes désirs, évidemment. Quoique, des fois, peut-être que c'est ce qui traîne au fond de mon cœur. Et peut-être que je me comporte parfois comme ça. Dieu, lui, voudrait que moi, je marche avec lui. Et pas que lui marche avec moi. Donc pourquoi marcher avec Dieu ? Parce que Dieu récompense, rémunère ceux qui le cherchent, pas ceux qui se cherchent. Alors pourquoi ? Bon, ça peut paraître simple, mais ce qui est plus compliqué, c'est comment ? Comment marcher avec Dieu ? Une petite parabole. Qui est-ce qui va au collège le matin ? Il y en a. Bon, alors je ne sais pas comment tu y vas au collège. Trottinette, à pied, en tram, en bus. Bon, cette parabole est pour toi. Voilà, il y a un matin où dans le bus tu vas au collège. Tu as ton cartable sur le dos ? Ouais. Et au bout des pouces, tu as quoi ? Au bout des pouces, tu as ton smartphone ? Non, t'en as pas ? Bon, t'es un gars bien alors. Je vais apprendre à te connaître, toi. Bon, autour de toi, qui y a ? Des tas de gens comme toi, qui ont ton âge à peu près, et qui font quoi ? Leur cartable sur le dos. Ils s'occupent beaucoup de leur smartphone. Ah ouais. Et ils vont où ? Et toi, tu vas au collège. Il n'a pas le choix devant les parents. Il est obligé de le dire. Bah, en même temps, c'est l'heure d'aller au collège. On est dans le bus qui va au collège. Est-ce qu'il y a autre chose à faire qu'aller au collège ? On est tous d'accord pour ça, dans le bus ? Mouais. Enfin, on y va, quoi. Des fois, tu trouves un bon copain et vous marchez ensemble jusqu'au collège. Ça arrive. Pas besoin de se mettre d'accord, on va au collège, c'est clair. Bon. Si vous n'étiez pas d'accord pour aller au collège, pourriez-vous mettre d'accord pour aller ailleurs ? Mais tu ne me le diras pas là, c'est clair, mais ça pourrait se faire. Mais il faudrait se mettre d'accord. C'est écrit dans la Bible, c'est comme ça que ça marche. C'est très clair. Prophète Amos, chapitre 3, verset 3. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Bon. Deux collégiens qui vont au collège marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ? Non. S'ils n'étaient pas d'accord pour aller au collège, on irait. Il y a des murs en ce moment, hein, le long des chemins. Des murs à manger, hein. Ouais. C'est une question d'objectif commun. Au même moment, se diriger vers le même collège. Et puis, puisque cela, il faut être d'accord pour aller ensemble, marcher avec un copain plutôt qu'avec un autre. Même dans le troupeau des collégiens, on ne marche pas tous ensemble. Parfois, on marche avec un tel et un tel. Et puis, c'est tout. C'est un peu pareil avec Dieu. Je reviens donc à ma question. Comment marcher avec Dieu ? Est-ce que ça ne commencerait pas par décider de marcher avec Dieu ? Comme on décide d'aller au collège ? Bon. Et puis, une fois que j'ai décidé de marcher avec Dieu, comment je fais ? Ben, il faut que j'aie les mêmes objectifs que Dieu pour marcher avec lui. Et comment faire pour avoir les mêmes objectifs que Dieu ? Ben, il faut les connaître. Donc, si je ne sais pas où Dieu va, comment puis-je marcher avec lui ? Et comment connaître les objectifs de Dieu ? Comment peux-je faire ? Et des plus âgés qui savent, ils ne veulent pas le dire. Ah, et les grands-enfants, ils savent. Bon. Comment on sait ce que Dieu pense ? Ben voilà, on lit sa parole. Alors, le seul fait de dire sa parole, c'est un peu caractéristique. La Bible, un autre nom, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Ben, ça tombe bien, il va quand même me parler un peu, il va me dire ce qu'il pense, il va me dire où il va. Et quand je connaîtrai un peu mieux où il veut aller, ben je saurai un peu mieux marcher avec lui. Ça paraît assez logique. Il y a un autre moyen de connaître les objectifs de Dieu, à part la parole. La prière. Voilà. C'est tout bête. Lorsqu'on va au collège et puis on décide de faire un petit détour, ben, l'un à l'autre, on dit on n'irait pas acheter des bonbons chez la mère Michel. On se parle. Comment est-ce qu'on parle à Dieu ? Ben, on prie. C'est ça la prière. C'est je parle à Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Dieu, virgule, explique-moi ce que tu veux. J'y comprends rien à ma vie. Explique-moi. Il va expliquer. En conclusion, parce que je crois que j'étais un peu long, le maître du temps dit, ça va. Retenons très simplement ceci. Très simplement. Dans la grande généalogie où chacun vit et meurt, sans qu'il soit question de Dieu, on retient « Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut car Dieu l'enleva auprès de lui. Enoch avait plu à Dieu, or personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ou rémunère ceux qui le cherchent. L'important, c'est de marcher avec Dieu. L'important, c'est que je marche avec Dieu, pas l'inverse. L'important, c'est que je cherche à savoir ce que Dieu veut, ce qui lui fait plaisir, pas l'inverse. Que Dieu nous aide à le chercher vraiment, de tout notre cœur, pour marcher avec lui, comme Enoch autrefois. Peut-être pas aussi longtemps, mais la durée de notre vie.